les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste toujours en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers sur Principe Actif.
Réchauffement climatique, environnement, énergie fossile, énergie renouvelable, fonte des glaces, nucléaire, pollution, recyclage. Bonjour à toutes et tous, nous sommes les élèves du micro-lycée Aristide Briand. C'est-à-dire Sarah, Océane, Aurélie, Espérance, Nelson, Maxence, Gillian et moi-même Sundus. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler du développement durable en compagnie d'Anthony qui travaille pour l'espace Info Énergie et Stéphane du collectif Alternativa. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous?
Bonjour à tous.
Ça va bien.
D'accord.
Bonjour, je vais vous poser quelques questions. Qu'est-ce que l'espace Info Énergie?
Alors, l'espace Info Énergie, c'est un service public gratuit de conseil sur les économies d'énergie liées à l'habitat. C'est-à-dire que les personnes qui viennent nous voir ont des questions sur comment réduire leurs factures de chauffage, d'électricité, et puis éventuellement quelles aides financières existent pour rénover leur logement.
D'accord. Que faites-vous dans votre métier ?
Alors, tout plein de choses. Ça commence déjà par des rendez-vous. On va pouvoir échanger avec les gens par téléphone, par mail ou lors de rendez-vous physiques dans nos locaux pour justement parler de leur consommation d'énergie, éventuellement voir comment les réduire par le biais de travaux ou de gestes aussi, ce qu'on appelle les éco-gestes. Et on peut aussi participer à des animations, des salons, organiser des conférences, etc. sur tout le territoire. Sauf que les espaces info-énergie, il y en a un petit peu partout, en Normandie et même en France.
Comment avez-vous eu envie de faire ce métier ?
Tout simplement parce que j'avais une sensibilité liée à l'environnement, développement durable, etc. Et je cherchais un métier où je n'aurais rien à vendre. Et donc c'est un petit peu compliqué de trouver ce genre de choses. Et là, c'est un service public, c'est-à-dire que moi, je suis complètement neutre et objectif. Je n'ai pas de compte à rendre à des fournisseurs d'énergie ou des vendeurs de matériaux, etc.
C'est quoi le collectif Alternativa ?
Ah, donc là, c'est Stéphane qui reprend la main. Alternativa, c'est une organisation écologique qui est née il y a moins de 10 ans pour préparer des actions pour la COP21 qui a eu lieu en 2015. Donc, il y avait des pourparlers justement sur quelle position allaient prendre les gouvernements sur les actes écologiques organisés. Et Alternativa s'est constitué par des citoyens qui ont dit « Nous, on veut donner notre avis parce qu'il y a des choses à faire et si on ne compte que sur les politiques, on n'est pas sûr qu'on aille dans le bon chemin. » Donc voilà, des citoyens se sont regroupés, ont dit « Nous, on va proposer des choses » et ils ont lancé une organisation qui est maintenant nationale partout en France et je fais partie de la cellule qui est à Évreux.
On vous propose d'écouter un premier extrait de micro-trottoir que nous avons réalisé au sein de notre lycée. On écoute ça tout de suite.
Qu'est-ce que le développement durable selon toi ?
Je sais pas. Je sais pas, moi.
C'est très intéressant.
Je sais pas.
T'as une idée ?
Je sais même pas c'est quoi.
C'est un développement, je sais pas. Je
connais pas ce que tu dis.
Ouais, je connais pas.
C'est pas le truc là, ça se développe dans le monde.
Moi, selon moi, le développement durable, c'est le bien-être de la planète. Genre, pas polluer, salir, tout ça, t'as capté.
Alors, pour moi, le développement durable, c'est quelque chose de bien pour la planète et quelque chose d'écologique, une nouveauté écologique.
Le développement durable, c'est l'environnement, la protection de l'environnement et les énergies renouvelables.
Développement durable, c'est... Ça se passe déjà, par exemple, au Costa Rica. Il y a des énergies renouvelables.
C'est quoi le développement de la société ?
C'est ce que je sais. Non, c'est pas ça. C'est en gros, c'est une façon d'utiliser les ressources du monde pour dans la durabilité, en gros, pour pouvoir gérer les ressources et pour que tout le monde en ait pour les futures décennies à venir, comme le pétrole, tout ça.
Ok.
Je sais pas, franchement.
Développer des
quelque chose. Je sais pas, en fait, je comprends pas vos questions. Et j'y connais rien, je suis pas du tout dans ces trucs-là.
C'est le fait de développer tout ce qui est matériaux, tout ça, pour que ce soit durable et qu'on n'abîme pas la planète en le faisant.
C'est pas les questions qu'on m'aborde souvent. Développement durable, tout ce qui est pollution, surtout en ce moment, les pollutions. On balance des voitures polluantes dans les styles Afrique et machin, donc en France on fait on réduit les voitures polluantes de plus en plus, mais c'est pour les mettre dans un autre pays, je vois pas l'intérêt.
Alors, qu'est-ce que c'est assez vaste en termes de définition en soi, le développement durable, parce que ça peut s'inscrire dans le cadre de ce qu'on appelle la RSE, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, le développement durable, si moi je le résume à mon point de vue, c'est de faire en sorte que on puisse préserver notre planète et préserver tout ce qui est offert au niveau de notre environnement, qui est à l'heure actuelle très instable.
Quelle est votre réaction face à ce que vous venez d'entendre ?
Déjà, c'est plutôt intéressant. Il y a plein d'avis différents. Il y a de très bonnes réponses. Il y a des personnes qui ont osé dire aussi qu'ils ne connaissaient pas. Donc, c'est très bien aussi. L'important, c'est d'oser dire quelque chose. Voilà.
Oui, oui. En fait, il faut rapprocher ça, je pense, de notre modèle de consommation actuel, qui, lui, est prédateur au point de vue ressources, et l'impact est derrière. C'est comment on peut agir pour le long terme. Le développement durable, c'est vraiment la visée du long terme.
Que représente le développement durable ?
Alors, le développement durable, en fait, c'est un moyen de répondre aux besoins actuels de tout le monde, sans compromettre, en fait, les générations futures qui auront aussi les mêmes besoins que nous, en fait. Donc, c'est justement gérer les ressources, ça a été dit tout à l'heure dans le micro-trottoir, c'est pouvoir gérer les ressources pour en laisser aussi aux générations futures.
Et comment envisagez-vous le développement durable ?
Disons que ça fait partie des choses que promeut Alternatiba. Justement, Alternatiba, ça veut dire alternative, c'est-à-dire que notre organisation va dire, sur plein d'axes de la société, la consommation, les déchets, l'énergie, on peut faire autrement sans dégrader les ressources naturelles. Donc, plusieurs associations écologiques militent en disant, il y a d'autres solutions, on va vous les proposer, et c'est ceci qu'il faut mettre en avant maintenant.
Et c'est quoi l'écologie ?
Alors, l'écologie, c'est l'étude de tous les êtres vivants de la planète. Et souvent on l'utilise pour justement parler de protection de la nature, etc. En fait, ça peut être on peut aussi parler de la politique écologique, etc. C'est un mot un petit peu valise qui est utilisé dans de nombreux cas.
Qu'est-ce que la transition énergétique ?
Alors la transition énergétique, c'est essayer de passer de notre consommation qui est basée sur les énergies fossiles. C'est-à-dire que sur la planète, à peu près 90-92% de toute l'énergie consommée vient des énergies fossiles. Donc énergie fossile, ça veut dire pétrole, charbon, gaz, etc. Et c'est de pouvoir réduire ces consommations et de passer à un autre système qui serait les énergies dites renouvelables, qui elles ne sont pas limitées, c'est-à-dire qu'on n'a pas un stock sur la planète. Le charbon, on a un stock, au bout d'un moment, si on utilise tout, il n'y en a plus. Tandis que le soleil, lui, tous les matins, il se lève et tous les matins, il envoie des rayons solaires qui peuvent être transformés en énergie, en chaleur, en électricité, etc.
Qu'est-ce que la fonte des glaces ?
La fonte des glaces, il y a un phénomène naturel, mais il y a aussi un phénomène qui s'est aggravé ces dernières dizaines d'années par l'émission de CO2 due justement aux énergies fossiles qu'on sort des ressources naturelles, qu'on exploite, qu'on transforme et qui se dispersent après dans l'atmosphère et qui font un réchauffement global de la planète, d'où les glaces qui, au pôle, diminuent et qui vont déclencher d'autres phénomènes plus ou moins graves.
Que sont la biodiversité et les écosystèmes ?
Alors, la biodiversité, ça va être tous les êtres vivants justement de la planète, donc les plantes, la faune, la flore, les êtres humains aussi, on fait partie de cette biodiversité. Et les écosystèmes, un écosystème, ça va être plusieurs justement espèces, animales, végétales, qui cohabitent dans un système pour s'entraider en fait. C'est-à-dire que si on en enlève un, on va déséquilibrer la chaîne alimentaire, déséquilibrer en tout cas ce système, et il risque de plus fonctionner et de s'effondrer.
C'est quoi l'empreinte carbone ?
Alors l'empreinte carbone, ça va être justement notre consommation en CO2, en dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'on peut tout traduire tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on fait pour vivre utilise de l'énergie et émet des gaz à effet de serre. Et pour que ce soit plus simple, on va transformer tous ces gaz à effet de serre. Il y en a beaucoup, il y a le méthane, il y a les gaz fluorés, etc. Le CO2, celui qu'on n'entend plus parler. On peut transformer tout en CO2. Par exemple, le méthane, c'est ce qui est émis, on dit souvent pour rire que ça va être le pet des vaches, par exemple, ça va être le bétail, etc., qui va émettre du méthane. Et le méthane, il faut dire que c'est 20 fois plus puissant que le CO2. C'est-à-dire que si on met un kilo de méthane dans l'air, il va réchauffer la planète 20 fois plus fort que du CO2. Et du coup, l'empreinte carbone, ça va être justement, on additionne tout ça, tout ce qu'on émet. Et par exemple, pour un Français, il faut se dire que l'empreinte carbone, elle est à peu près de 12 tonnes équivalent CO2 par an.
Que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre. Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques bon, au plus bas, pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Tu en le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte de l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de la chance. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Aral, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays, la disparition d'espèces animales et l'office de ces conneries. Réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la terre, sauvons la terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt l'échec sur la planète, sur la planète, sur la planète.
Le néant de la colonie, l'homme doit cesser d'exister.
Donc là, on vient d'écouter Assassin, le titre Sauvant la planète. On vous propose d'écouter un deuxième extrait du micro-trottoir.
Comment éviter la pollution?
Bah, je sais pas, peut-être en jetant moins de trucs par terre. Ou... Je sais pas trop.
Il faut que je donne des exemples
ou... Vous pouvez.
Par exemple, je ne prends plus ma voiture, je prends les transports.
Je sais pas, hein.
Sans jeter les papiers, tout ça.
En recyclant. Essayer de moins prendre des voitures.
Ok. Pas laisser beaucoup de déchets. pour que genre Bernie ça soit tout le temps propre, éviter les mauvaises choses qui peuvent salir, qui peuvent emmener, tu vois, les mauvais trucs, tout ça.
Ok.
Bah simplement, je pense en consommant moins. La société de consommation dans laquelle nous sommes fait que on consomme énormément en énergie et on produit énormément de déchets.
Plus de transports en commun, utiliser plus les transports en commun, éviter tout ce qui est les industries là, qui polluent dans les grandes villes. Et puis, ouais, utiliser les voitures électriques.
Réduire les gaz à effet de serre.
Prendre des transports en commun.
Ouais. Mmh.
Ouais, recyclage et tout.
Diminuer les productions chimiques, par exemple les voitures, à l'essence, tout. Développer plus électroniquement, pour moins de polluer et tout ça.
Faut moins faire de la voiture, faut faire du vélo.
Bah, éviter d'utiliser les voitures avec de l'essence, tout ça. Éviter d'utiliser le pétrole, d'éviter de jeter nos déchets par terre, tout ça.
Déjà, c'est taper dans les gros. Des personnes qui polluent vraiment, des pays qui polluent vraiment, et d'arrêter de faire la guerre sur certaines choses. Voilà.
Comment éviter la pollution ? Bah, c'est peut-être un geste de tous les jours, que l'on soit petit ou non. Je vois, il y a de plus en plus d'actions maintenant qui sont proposées. Au primaire, on propose à ces petits de ramasser tout ce qui est papier, déchets dans leur cours. On les sensibilise dès le départ. Ça vient aussi de nous en tant qu'êtres responsables et adultes responsables, par exemple par le tri. Et puis peut-être éviter maintenant tout ce qui est plastique et autres. Au lieu de prendre une bouteille en plastique, on se dit on peut prendre de l'eau qui est la plupart du temps potable et puis ça nous évite d'acheter notre pack d'eau tous les jours. Voilà.
Quelle est votre réaction à ce micro-trottoir ?
Déjà, on peut dire que quelque chose qui ressort souvent, ça va être le changement de comportement. C'est assez intéressant de voir ça. Chaque fois, on a dit qu'il faudrait modifier nos habitudes, arrêter de jeter des papiers, arrêter de consommer du pétrole, etc. Donc c'est intéressant, c'est vraiment ça en fait. On va pas pouvoir parler éventuellement de décroissance ou ce genre de choses, mais ça va être changer nos comportements pour moins émettre de polluants.
Mmh. Oui, il y en a beaucoup qui ont rebondi sur tout ce qui était mobilité. C'est un cas, mais il y a d'autres choses. Hein. Il y a l'habitat, il y a la consommation. Certains disaient donc quand on en achète, il y a des achats responsables à faire. Donc il y a vraiment plusieurs axes qui ont été évoqués. Et il y a aussi le côté individuel ou le côté monde industriel, monde marchand. Toutes ces choses-là sont à réexaminer maintenant, oui.
Ok. Qu'est-ce qui engendre la disparition de certaines espèces ?
Alors, tout plein de choses, encore une fois. Il y a des espèces qui disparaissent naturellement, déjà, parce qu'il y a trop de prédateurs, parce qu'elle ne s'est pas adaptée. Il y a aussi, on découvre aussi de nouvelles espèces très souvent. Mais là, on se rend compte que de plus en plus, les espèces disparaissent très vite et on est sûr à 95% que c'est à cause de l'être humain, tout simplement, qui va justement avoir une incidence sur le reste de la faune et de la flore de la planète. Donc c'est tout simplement le réchauffement climatique, hein, ce qu'on peut appeler le réchauffement climatique. Finalement, la température monte trop vite, on a des écosystèmes, justement, on en parlait tout à l'heure, qui vont être modifiés, et les espèces n'ont pas le temps de s'habituer. C'est assez long de pouvoir s'habituer, ça demande de changer l'ADN, etc., d'un animal ou d'une plante et autres. Et là, elles n'ont tout simplement pas le temps. Donc, quand on n'est plus adapté à un système, à un écosystème, on disparaît.
Il y a aussi le phénomène, par exemple, dans l'agriculture, les pesticides, qui, eux, vont, en effet, détruire des animaux, parce que c'est fait pour s'en partir, pour réduire les capacités nocives de certaines espèces sur des champs. Mais en fait, vous avez des espèces cibles qui disparaissent, mais ceux qui les mangeaient disparaissent aussi, parce qu'ils n'ont plus de nourriture. Donc, on aggrave un équilibre dont parlait tout à l'heure Anthony, où la nature était bien équilibrée entre les différentes espèces. On en fait disparaître une, ça en fait disparaître une autre par conséquence. Tout un équilibre est en train de tomber à ce moment-là. Quoi.
Et c'est très rapide. En fait, là, pour donner 2-3 chiffres, en fait, là, la disparition des espèces, elle est 1000 fois plus rapide que la normale, que ce qui a pu être étudié avant. Et en 30 ans, là, on a perdu à peu près 75% des insectes qui étaient sur la planète. Mmh.
Quel impact a-t-on sur les écosystèmes ?
Du coup, c'est ce qu'on a dit aussi tout à l'heure. Donc, en gros, c'est vraiment le fait de notre société de consommation qui a un impact. Parce qu'on a un système où on va parler de croissance. Il faut toujours croître, il faut avoir plus. Et en fait, la planète, malheureusement, on est sur une planète qui est limitée. Elle, il y a un certain stock de choses, donc c'est pas possible avec une économie liée à la croissance, dans un espace limité, où on va forcément arriver à une limite, justement. On va plus pouvoir consommer à ce point-là. Et comme, justement, nous, on utilise beaucoup d'énergie fossile, on utilise beaucoup de pesticides, etc., on va, justement, détruire cette biodiversité.
Ouais. Quel avenir pour la biodiversité ?
Ah, ça c'est la question piège. Hein. Justement, les associations écologiques font tout pour essayer de redonner un équilibre, ce qui n'est pas encore gagné. Hein. Donc ça fait partie des actions qu'il y a actuellement partout dans le monde, en se disant si on veut conserver ce qui reste de biodiversité, il faut vraiment faire des tas de plans, mais des plans au niveau nationaux et même internationaux.
Il va falloir apprendre à restaurer les écosystèmes, en fait. À réintroduire des arbres, des essences d'arbres qui sont adaptées au climat, qui peuvent s'adapter aussi parce qu'il est en train de changer. Donc, pour que la biodiversité puisse se reconstituer, il va falloir tout simplement mettre la main à la pâte.
Est-ce que notre régime alimentaire est bon pour la planète ?
Ça dépend du régime de qui. Oui, non, enfin, le régime de l'occidental actuel, non. Parce que manger beaucoup de viande, ce n'est pas du tout bon pour la planète.
On est passé d'un régime où on avait 2/3 de protéines animales, là sur les dernières années, à un régime où justement on a 2/3 de protéines animales. Donc en fait, il faut dire que pour créer une calorie, la calorie c'est ce qu'on mange, ce qui nous fournit de l'énergie, pour produire une calorie de protéines animales, il faut entre 4 et 11 calories végétales. C'est-à-dire qu'on fait pousser une plante pour nourrir le bétail, et ensuite on va se nourrir du bétail. Si on enlève les intermédiaires, on peut manger directement le végétal et il n'y a aucun problème en fait. Et on réduit justement l'impact qu'on pourrait avoir. Il faut se dire que l'élevage qu'on a au niveau mondial, ça pollue plus que tous les modes de déplacement du monde. Les avions, les trains, les bus, les voitures, etc. Donc on a un énorme impact à ce niveau-là à cause de notre régime alimentaire justement.
Quelle alimentation peut aider la planète et les hommes ?
Eh bien Anthony en parle. Qui est répondu, il faut aller plus vers une alimentation végétale, plus équilibrée, des produits moins transformés aussi, parce que plus vous les transformez, plus vous ajoutez des composants que votre corps ne va pas forcément synthétiser normalement, et manger plus simplement. Hein. Il faut vraiment retourner vers plus de simplicité. Hein.
Plus local aussi, et puis de saison. Est-ce qu'on a besoin de manger des tomates en hiver qui sont produites en Espagne sous serre, donc il faut beaucoup de plastique pour créer des serres, il faut les chauffer, etc. Donc c'est de revenir à une consommation locale. Pas forcément bannir totalement la viande, hein, mais essayer de la réduire. De toute façon, il faudrait pouvoir la réduire quand même drastiquement si on veut pouvoir limiter l'impact qu'on est en train d'avoir sur la planète. Mais ça passe par ce genre de choses en fait.
Est-ce qu'en mangeant moins de viande, on peut réduire notre empreinte carbone ?
Ah bah, je crois qu'on vient de répondre. Hein.
Oui, on peut tout à fait la réduire à ce niveau-là.
Avez-vous des solutions pour consommer moins ?
Alors oui, il y en a plein. Hein. C'est ce qu'on appelle la décroissance. Donc on a commencé à le dire un petit peu là. Mais essayer de consommer des choses locales, en nourriture, mais aussi en vêtements, en biens de consommation. Essayer de les réparer aussi. Par exemple, si un appareil électrique ne fonctionne plus, on peut essayer de le réparer. On peut limiter nos modes de déplacement aussi. Il faut savoir que prendre l'avion tous les week-ends pour aller quelque part en Europe, ça a un énorme impact au niveau pollution. Donc essayer plutôt de prendre les transports en commun, le train, etc. Dans le but de limiter cet impact-là.
Comment conserver notre niveau de vie actuel pour les générations futures ?
Alors là, ça c'est une très bonne question. À la limite, on ne peut pas conserver notre niveau de vie actuel pour les générations futures. Si on continue à vivre comme on le fait actuellement, c'est sûr qu'on n'y aura pas de solution. On va vers un gros problème. Donc il faudra revoir notre mode de vie. Ça, c'est clair.
Est-ce que dans l'avenir, la Terre pourra toujours nous fournir suffisamment de ressources ? Je vais dire, désolé.
Alors, ça dépend de quelles ressources on parle. Si on parle des énergies fossiles, non. On a déjà passé pas mal de ce qu'on appelle les pics de consommation, enfin de production, c'est-à-dire qu'on a pris la plus grande partie qu'on pouvait faire et maintenant on est en train de se réduire. Par contre, il y a plein d'autres ressources sur la planète, il faut juste qu'on s'adapte et qu'on consomme différemment. Par exemple, pour la nourriture, il faut se dire que la planète, elle peut nourrir 12 milliards d'êtres humains sur la planète sans problème. Il faut juste arrêter de tuer le sol simplement avec des produits, de tout industrialiser, mais d'avoir d'autres méthodes de production.
comment conserver nos ressources dans 50 ans.
Ah, bah, de toute façon, ça ne sera que par des modèles d'économie, d'économie d'énergie, et ce qu'on dit, revisiter notre façon de vivre. Hein, et, on compare dans les milieux écologiques la consommation d'un Américain avec celui d'un Africain, ça n'a rien à voir. Hein, y a des multiplicateurs énormes entre les deux. Il faut revenir vers plus de sobriété dans la consommation, que ce soit dans le déplacement, dans la nourriture, dans notre façon de vivre. Il n'y a que ça qui va garantir une durabilité. Le modèle de consommation actuel des entreprises n'est pas sur ce schéma-là. C'est pour ça qu'il faut le revoir.
Par exemple, tout à l'heure, quand, dans le micro-trottoir, quand on disait que pour la pollution, il faut limiter, par exemple, trier ses déchets, etc. Ouais. C'est très bien. Mais si déjà, on peut demander aux entreprises de, directement à la production d'arrêter de produire des déchets, on n'a plus besoin de les trier. Donc en fait, directement, on limite l'impact de ces emballages, etc. Donc ça va être vraiment revoir le modèle économique, revoir notre façon de vivre aussi. On est très individualiste. Il va peut-être falloir qu'on ait un peu plus d'entraide, qu'on arrive un petit peu à aller un petit peu plus voir son voisin, etc. Pour pouvoir, on est plus fort ensemble de toute façon. Et on est une espèce très sociable justement. Donc il va falloir réapprendre un petit peu ça.
Conjoindre la production des objets de notre quotidien.
Ah ben ça engendre, c'est une très bonne question, parce que ça engendre beaucoup de déchets et de changements, mais ça fait partie, on revient toujours sur le même schéma, ça fait partie du modèle économique actuel. C'est que pour pouvoir déclencher de la croissance permanente pour les entreprises, on préfère nous faire des objets qui ne vivent pas très longtemps pour pouvoir le racheter plusieurs fois. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence et différents types d'obsolescence. Donc ça aussi, il faut revenir là-dessus, retrouver des objets qui durent, et qu'on pourra partager, même pour se dire, on l'achète une fois, mais il sert à plusieurs personnes, et dans la durée.
Il faut se dire qu'en gros, en France, on a un modèle économique qui fait que pour vivre, si on remplaçait toute l'énergie qu'on utilise, tout ce qui est produit à l'étranger, etc., et qui est importé, parce que tout ça, il faut les faire venir, nos t-shirts, nos vêtements, etc., tout ça, c'est pas produit en France. Si on remplaçait ça par des êtres humains, en fait, c'est comme si on avait 400 esclaves derrière nous. En fait, on a chacun 400 esclaves qui travaillent pour nous, en fait, pour pouvoir produire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on vit. Donc, on voit bien que c'est pas tenable. Si on faisait pareil sur toute la planète, on voit bien que c'est pas soutenable. En fait, on peut pas y arriver. Donc, il faut bien changer ce système de consommation. Même l'ONU l'a dit. Hein, L'ONU, l'Organisme des Nations Unies, l'a dit l'année dernière. Je crois, si je me trompe pas, elle a sorti un rapport qui incite et qui demande à tous les États de changer le système économique, parce que même eux se sont rendus compte que c'était pas possible de continuer comme ça.
Quelle différence entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables ?
Ouais, alors énergie fossile, qu'on peut aussi appeler énergie de stock. Alors énergie fossile, ça va être tout ce qui est dans le sol concrètement. Ça veut dire qu'on a une réserve, on a une mine, on a quelque chose là où on peut aller chercher ces produits-là. Je dis de stock parce que par exemple le nucléaire, même chose, c'est de l'uranium. Donc l'uranium, on va bien le chercher quelque part, il apparaît pas comme ça au milieu de nulle part. Et les énergies renouvelables, elles, vont utiliser des choses qui sont... qui se renouvelle justement comme son nom l'indique, comme tout à l'heure par exemple tu parlais du soleil, le soleil, les rayons du soleil tous les jours ils arrivent sur la planète, du vent on peut en avoir par intermittence, etc. Donc tout ça c'est ce qu'on va appeler énergie renouvelable.
Faut-il investir en priorité dans l'isolation ?
Ah ben, oui, Anthony va répondre. Oui.
Alors oui, en fait justement on dit depuis tout à l'heure qu'il faut changer de nos systèmes de consommation, il faut changer, faire différemment pour justement changer, faire réaliser ce qu'on appelle entre guillemets la transition énergétique. On peut pas y arriver si on ne réduit pas les consommations à la source, c'est-à-dire si on, au lieu d'isoler, si on met une super chaudière bois ou quelque chose de très gros qui va réussir à chauffer tout le logement, on va pas y arriver parce qu'on va consommer plus. Alors que si dès le départ on isole son mur, on est tranquille pendant 50 ans et on touche à rien. Alors qu'un système de chauffage, par exemple, une chaudière, ça dure 15 ans à peu près en moyenne. Au bout de 15 ans, il faut la changer. Donc c'est toujours plus rentable d'isoler et de réduire à la source la consommation.
Est-ce que beaucoup de personnes vous sollicitent pour l'isolation ?
Alors oui, en gros, par an, nous, on reçoit entre 1000 et 1200 personnes, donc soit par téléphone, par mail ou en rendez-vous. Donc oui, on a quand même un chiffre qui augmente de toute façon, parce que les gens s'intéressent de plus en plus. L'énergie coûte de plus en plus cher, donc forcément, par le biais de l'argent, les gens se rendent bien compte qu'il faut faire quelque chose, donc ils viennent nous voir pour essayer de trouver des solutions. Et comme on a un service gratuit, et en plus, nous, on n'a rien à vendre. Enfin, moi, j'ai pas de produit à leur vendre derrière. C'est vraiment juste du renseignement. Ça intéresse pas mal de personnes.
Quelle différence entre centrale nucléaire, hydraulique et thermique ?
Oh, bah, il y en a une sacrée quand même. Alors, les centrales hydrauliques, en effet, on va parler des barrages qui vont utiliser la force de l'eau pour faire tourner des moteurs qui vont eux-mêmes vont faire tourner des générateurs qui produisent de l'électricité. Une centrale hydraulique, vous la démontez, impact sur l'environnement, il n'y aura plus grand-chose hormis les quelques les résidus de l'installation. Si on parle du nucléaire, bon, on a une installation qui est complexe, qui est dangereuse, et qui produit des déchets qui, eux, vont même être là pour des milliers d'années. Donc, qui vont rester dans le sol, dans des zones très dangereuses, pour très très longtemps. C'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure quand même de générations futures. On laisse aux générations futures des déchets très toxiques, pour très longtemps. Donc, en effet, les gens de l'écologie sont naturellement contre l'énergie nucléaire.
Et les centrales fossiles, enfin, aux énergies fossiles, c'est tout simplement des centrales où on va brûler du gaz, du charbon ou du pétrole directement pour produire de l'énergie. Là, chaque fois, on va produire de l'électricité. On ne l'a pas dit, mais il fallait peut-être commencer par là aussi, pour justement alimenter ben, là, le studio, nos ampoules, etc.
Quel est l'avenir des centrales hydrauliques et des centrales nucléaires ?
Alors, les centrales hydrauliques en France, on va dire qu'on est au maximum, hein, on ne peut pas en faire plus. Tous les spots où on pouvait s'implanter ont été mis en place. Donc là, à part les entretenir, les renouveler, etc., on ne peut pas faire beaucoup plus au niveau hydraulique. Au niveau nucléaire, c'est la grande question. Normalement, on est censé réduire le nombre de centrales, tout simplement parce que ben, ce n'est pas vivable non plus. Tout à l'heure, j'ai dit que l'uranium, c'était une énergie de stock, c'est-à-dire qu'elle est dans le sol. C'est-à-dire que là aussi, on a une quantité qui est limitée. Donc, on peut faire d'autres centrales, etc. Mais au bout d'un moment, on n'aura rien pour l'alimenter. Donc, c'est aussi amené dans le temps à disparaître. Donc là, en plus, c'est la grande question en ce moment, parce qu'on a des centrales qui sont vieillissantes, qu'il faudrait éventuellement réparer. Ça coûte très cher. On est plutôt en train de partir là-dessus, voire de construire de nouvelles centrales. Mais si on regarde sur une échelle de temps assez grande, on voit que ce n'est pas non plus la solution. Il faudrait bien trouver autre chose.
On a l'exemple de l'EPR de Flamanville, hein, la toute dernière centrale qui est lancée par EDF, qui n'est toujours pas démarrée, qui explose à son coût d'installation. Donc on voit que ce n'est pas non plus une énergie facile à mettre en place et qui est très coûteuse. Donc il faut vraiment réfléchir à d'autres solutions que cette idée-là, qui était une mauvaise bonne idée à l'origine, que la France a conservée pour des choix politiques, mais qui doit maintenant disparaître de notre horizon.
Bon, on vous propose d'écouter le dernier extrait de notre micro-trottoir.
D'accord. Et que pensez-vous des voitures électriques ?
C'est intéressant, mais ça coûte cher.
Merci.
Pour moi, ça sert à rien parce que dans tous les cas, dans les voitures électriques, il y a des batteries. Et après, les batteries, on ne sait pas où faudra les mettre. C'est tout ce que je pense.
Ouais, ça c'est bien ça. Ah non, c'est pas bien ça. Parce que je crois que ça pollue. Hein.
Que c'est bon pour. Comment ça s'appelle ?
Pour la planète ?
Ouais, bon, pour la planète.
Ok. Je sais pas, j'en ai jamais conduit.
Pour moi, ça pollue autant que les voitures normales. Ça change rien.
Pourquoi ?
Parce que faut charger, tu vois, il y a plein de trucs bizarres et c'est encore plus. Comment dire ? C'est encore plus. Il faut encore faire plus de trucs que sur une voiture normale. T'as capté ou pas ?
La voiture électrique, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça pollue moins. Mais je trouve que c'est une mauvaise chose car dans la création de la voiture électrique, on s'est. Plus quoi faire de la batterie qui pollue énormément.
Ça pollue beaucoup la terre, quoi. Je pense que les voitures électriques, c'est mieux, ça pollue moins.
Ça limite la pollution. Après, c'est coûteux pour les gens.
Elle est bien, mais est bien. Ça utilise de l'électricité quand même. Mais elle est bien quand même. Elle est moins polluante et tout.
Moi, j'ai vu que c'était pas bien, en fait. Je pensais que c'était bien, mais en fait, c'est pas bien parce que ça... Tout ce qu'il faut pour construire des voitures électriques, c'est mauvais, en fait. C'est sa base d'énergie nucléaire, du coup, c'est pas bon.
C'est mieux pour la pollution, pour l'environnement. Mais après, c'est... Économiquement, c'est... Ça diminue.
C'est une bonne chose pour la pollution.
Je pense que c'est une bonne idée parce que l'électricité, ça peut être une énergie durable. Enfin, on peut la produire durablement, du coup, bonne idée.
La merde, c'est la grosse merde. C'est la voiture qui pollue le plus. Et c'est ce qui me fait bien marrer, c'est sur le carburant. On dit les polluants, c'est le carburant. Sachant qu'une voiture une voiture électrique pollue plus dans une vie qu'une diesel ou une essence. Mais sachant que l'électricité, si ça vient du nucléaire, je ne vois strictement pas la différence. Voilà.
Ah, la question des voitures électriques. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment le sujet d'actualité. Ça se développe de plus en plus. La question que l'on peut se poser, c'est que oui, c'est très bien par rapport à tout ce qui est le gasoil, notamment. Mais une question que je me pose aussi, c'est batteries. Elles sont bien électriques. Donc, ça a une durée de vie plus ou moins longue. Et est-ce que ces batteries sont moins polluantes que le diesel en lui-même, le gasoil en lui-même? C'est à voir par rapport aux particules et autres. Donc, je ne suis pas assez pointue à ce sujet pour dire si c'est mieux ou non. À voir dans le temps, je pense.
Quelle est votre réaction au micro-trottoir?
Ah, alors, on voit bien que là, c'est orienté sur la voiture électrique. La voiture électrique, elle n'adresse en fait qu'à une seule problématique, c'est l'émission de CO2. Donc on remplace une voiture thermique à essence ou à gasoil par une voiture électrique. Donc je partage l'avis de beaucoup de personnes quand ils disent « Ok, si on échange l'essence contre une batterie, ben oui, les batteries, ça pollue énormément. Changer une voiture par une autre avec un autre carburant qui est le même que l'électricité, ça générera aussi des problèmes. Donc ce n'est pas la solution vraiment pérenne. »
Pour conclure, que pensez-vous des voitures électriques?
Par contre, Anthony avait peut-être son avis à donner, je crois.
Pour le dire là. Donc les voitures électriques, à mon sens, ça ne va pas être la solution, parce qu'on contourne le problème. En fait, plutôt que polluer chez nous avec les émissions de gaz à effet de serre, la voiture va être produite ailleurs, notamment en Chine. Il faut savoir que c'est eux les leaders de fabrication des batteries. Et pour produire des batteries, c'est extrêmement sale parce qu'il faut sortir certaines minerais, des terres rares, etc. Et donc ça a un impact énorme. Selon l'ADEME, produire une voiture électrique pollue 3 à 4 fois plus qu'un véhicule classique. Donc si on remplace tous nos véhicules individuels par des voitures électriques, déjà c'est même pas sûr qu'on ait assez de ressources pour créer toutes ces batteries-là, en fait, si on fait ça au niveau mondial. Donc au bout d'un moment, on aura un problème. Et d'un point de vue pollution, juste la pollution qui sera pas mise en place chez nous, elle aura juste été déplacée ailleurs. Donc, pour le point de vue réchauffement global de la planète, ça ne change rien, parce que le réchauffement climatique, c'est partout. Donc voilà, on ne va pas y arriver à ce niveau-là. Il vaut mieux plutôt agir sur tout ce qui est transport en commun, des méthodes de déplacement différentes, on va appeler déplacement doux, le vélo, la marche, etc., quand c'est possible, et avoir le véhicule électrique vraiment dans certains cas. Mais préférer tout ce qui est transport en commun, en tout cas.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Également merci à Stéphane du collectif Alternativa et Anthony de Espace Info. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur principeactif.net. Cette émission est présentée par les élèves du micro-lycée Aristide Briand, à savoir Espérance, Gilliane, Sundus, Sarah, Nelson, Aurélie, Océane et moi-même Maxence. Bonne journée à l'écoute de Principe Actif et au revoir.
Au revoir, merci.
C'était impressionnant quand même.